Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des hommes qui, par leur pensée, éclairent la réalité. Vous me direz que c'est le rôle des intellectuels, c'est en tout cas ce que fait Mathieu Bock-Côté, figure intellectuelle québécoise, mais de plus en plus visible en France, auteur régulièrement de tribunes, notamment dans Le Figaro. De passage à Toulouse, ce dernier fait un détour par nos studios pour nous parler d'un ouvrage sur le multiculturalisme. La thèse de ce dernier, les tenants de mai 68 auraient troqué la critique du capitalisme par la critique de la civilisation occidentale judéo-chrétienne, cherchant à la remplacer par une sorte de multiculturalisme. Une attitude qui, si elle est louable, représenterait un danger grave pour la démocratie, voire rien moins qu'un nouveau totalitarisme. Explication. Mathieu Bock-Côté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc québécois, on va l'entendre. Vous êtes donc une figure intellectuelle québécoise et vous êtes l'auteur, entre autres, d'un ouvrage. Alors, j'ai pas choisi le dernier, mais l'avant-dernier, Le multiculturalisme comme religion politique, paru aux éditions du Cerf. Voilà pour la courte présentation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être à ma courte présentation? Parce que comme vous n'êtes pas forcément très connu en France.
Je vous remercie infiniment de m'accueillir dans vos studios tout simplement.
Voilà. Donc, alors parlons du multiculturalisme. Peut-être pouvez-vous commencer par nous dire ce qu'est le multiculturalisme et l'illustrer par ce qui se vit chez vous. Alors évidemment, on détaillera tout au long de l'émission quelle est la thèse de votre ouvrage, mais si vous deviez introduire ce terme.
Alors si on veut définir le multiculturalisme de la manière la plus synthétique qui soit, au-delà de son histoire, de sa généalogie, je le définirais de la manière suivante. Le multiculturalisme est une idéologie ou une doctrine fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était la vocation des nouveaux arrivants de prendre le pli identitaire et culturel de la société qu'ils rejoignaient. Donc, en la rejoignant, ils apprenaient à dire « nous » avec cette société, ils en apprenaient les mœurs, ils en s'appropriaient l'histoire, ils en apprenaient la langue, et ils s'intégraient, ils s'assimilaient progressivement à la société qui les accueillait. Le multiculturalisme renverse cette vision des choses. Elle ne dit plus « à Rome, fait comme les Romains », c'est plutôt le contraire. Ça nous dit que désormais, les sociétés d'accueil doivent déconstruire leurs institutions, leur mentalité, leur espace commun pour accommoder les exigences de la diversité, pour se plier aux différentes revendications se plaçant sous le signe de la différence. Mais dans cette logique, la société d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres dans un monde pluriel. La société d'accueil n'a plus le droit de proposer de faire de sa culture, de son identité, une culture de convergence. La société d'accueil, lorsqu'elle cherche à rappeler justement qu'à Rome fait comme les Romains, se fait accuser de colonialisme intérieur, de xénophobie, de racisme, de crispation identitaire. Donc, dans la logique du multiculturalisme, il s'agit de déconstruire la figure de la nation pour qu'elle devienne la figure de la diversité. Je pense que c'est le résumé le plus succinct qu'on peut faire. Comment ça s'illustre de tant de manières? Je vais vous donner un exemple canadien, en fait, qui est assez révélateur.
Vous parlez de Toronto avant l'émission, peut-être?
Oui, oh, mais plus encore. Alors, 2015, il y a des élections fédérales au Canada, celles qui vont conduire d'ailleurs Justin Trudeau au pouvoir. Et il y a une question qui se pose dans la campagne, c'est est-ce qu'une femme peut prêter son serment de citoyenneté en niqab, sans même dévoiler son visage à quelques moments que ce soit. Le gouvernement conservateur avait cherché à empêcher la chose avec une directive administrative qui était renversée par les tribunaux. Et Justin Trudeau et bien d'autres ont plutôt dit ben, « c'est formidable parce qu'on ne doit pas légiférer sur le niqab, on ne doit pas chercher à encadrer de quelque manière que ce soit les symboles religieux de quelque manière que ce soit, donc, ou les symboles religieux ostentatoires, ou les symboles issus de la diversité. » Et peu à peu, on a vu ça en 2 ans, le niqab est devenu dans la politique canadienne une forme de symbole revendiqué de la diversité canadienne. Notre ouverture au niqab est vue comme la preuve de notre supériorité morale, de notre désir, en fait, de pousser très loin l'intégration, de pousser très loin l'accueil de l'autre. Et ceux qui s'opposent, donc ceux qui vont dire, ben un instant, il y a quand même des limites qui doivent être imposées, il y a quand même des normes communes qui doivent être imposées, sont accusés donc de suprémacisme ethnique ou culturel ou raciste et ainsi de suite. Donc vous voyez que le Canada a transformé le niqab en symbole de son ouverture maximaliste à la diversité. C'est assez loufoque et pourtant, c'est ça. Donc c'est un exemple peut-être caricatural, mais qui nous dit bien jusqu'où peut aller la logique du multiculturalisme.
Voilà, et on peut imaginer que ça trouve évidemment dans des échos en France, et probablement pour ça que votre livre connaît un certain succès, parce que quand on sait les débats récents qu'on avait eus entre assimilation et intégration, Bref, en tout cas, tout le propos de votre ouvrage, c'est d'essayer de voir d'où vient ce multiculturalisme. Alors donc, vous avez une expression. Vous dites qu'en fait, la génération 68, fascinée par... qui avait un fond de fascination pour le marxisme, aurait troqué la critique du capitalisme par la critique, c'est ce que je disais en introduction, de la civilisation occidentale, et donc forcément un peu judéo-chrétienne, un peu beaucoup. Vous dites, entre autres en page 17, il s'agit d'imaginer une révolution sous un autre visage. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu la genèse pour les nuls de cette nouvelle révolution, une soft revolution, comme on dirait presque chez vous? C'est...
Alors, dans les années 50, il y a quelques constats qui apparaissent chez les intellectuels progressistes, de gauche, marxistes. On commence à constater que Moscou ne sera pas la nouvelle Jérusalem, que la terre promise prend des allures de Sibérie, que la société idéale a des allures de société policière. On commence à constater, mais on commence simplement à constater que le communisme n'est pas le paradis longtemps espéré. Alors, commence à avoir des doutes sur l'Union soviétique, mais un désir révolutionnaire qui demeure constant. Hein, c'est une chose qui va être très marquante à gauche dans ces années-là. C'est qu'on désire maintenir la révolution, même si on constate que la révolution qui a eu lieu n'était pas la bonne. Dans les années 60, ce constat s'approfondit d'une manière ou de l'autre. C'est la poussée du gauchisme, c'est la poussée de la New Left aux États-Unis. Et quoi qu'il en soit, mai 68 va représenter quelque chose d'assez important. Je l'utilise comme un événement symbolique, c'est-à-dire qui marque une cassure d'une époque à une autre. Ce qu'on constate avec mai 68, c'est que les ouvriers ne veulent pas faire la révolution. On leur avait réservé un rôle de choix dans la théorie révolutionnaire. C'était la chair à canon révolutionnaire. Et ils n'en voulaient pas. Et donc, du point de vue d'une bonne partie de l'intelligentsia, ça va être une figure comme Herbert Marcuse qui va dire ça, c'est que le peuple a finalement trahi la révolution. Et si le peuple a trahi la révolution, l'intelligentsia de gauche est en droit de le larguer.
Est-ce que vous pouvez préciser ça? Parce qu'au moment de mai 68, en France, il y avait quand même des grandes manifestations aussi.
Oui, mais essentiellement, le mai 68...
C'était au départ pas qu'une révolution étudiante.
Non, mais il y a quand même ce qui arrive très rapidement. Ça le dit, c'est une distance très nette entre les ouvriers et qui veulent, en gros, une amélioration de leurs conditions sociales. Et ça, tout le monde comprend. C'est la redistribution de la richesse, c'est une volonté de faciliter l'existence. On va être d'accord ou non, mais ce sont des revendications qui s'inscrivent dans un schéma assez classique. Mais ce qui va marquer de toute façon mai 68, les effets culturels durables et tout ça, ce ne sont pas les revendications ouvrières, c'est pas Grenelle finalement. Et ce qui va véritablement marquer avec 68, c'est le déplacement des champs de lutte. C'est-à-dire, autrefois, on se battait sur les questions économiques, la critique du capitalisme, de ses effets à tort ou à raison, on lui reprochait d'avoir des effets d'iniquité sociale. Et puisque le commun est mortel, disons c'est comme ça, puisque le peuple ne suit pas la révolution, eh bien on fera la révolution en trouvant un nouveau peuple. Donc on va troquer en un sens l'ouvrier, qui était la figure sacralisée du marxisme, on va le troquer pour de nouveaux exclus. Et là on va se lancer à la recherche de nouveaux exclus qui seraient capables de donner une nouvelle sociologie finalement à l'aspiration révolutionnaire. Donc là, et là, dans la mesure où on quitte le domaine économique, parce qu'on va chercher aussi à déplacer le conflit, sur des questions culturelles, parce que ce sont des questions qui émergent aussi à l'époque, ce sont des questions qui sont portées par les nouveaux mouvements sociaux, pour reprendre la formule de Touraine, dans cet état d'esprit, on va voir que la critique du capitalisme va céder sa place à la critique donc, de l'Occident dans différents visages, que ce soit la nation, que ce soit l'école, que ce soit la famille, que ce soit, vous l'avez dit, le rapport aux faits religieux. On va assister donc à une espèce de remise en question du marxisme traditionnel, et la révolution, disons ça comme ça, ou à tout le moins la radicalité révolutionnaire, va changer de sociologie. On va désormais miser sur les minorités, et là il va y avoir une espèce de changement qu'on peut synthétiser de la manière suivante. On troque l'ouvrier pour l'exclu, entre guillemets, tout en sachant que l'exclu, on ne sait jamais à l'avance c'est qui. Finalement, ça va culminer dans la figure de l'immigré, quelquefois. On troque la critique du bourgeois pour la critique de l'homme blanc hétérosexuel dominant, disons ça comme ça. Et on troque finalement la critique du capitalisme pour la critique de la civilisation occidentale. À travers tout ce mouvement, qu'est-ce qu'on voit? On a une gauche qui se réinvente dans la critique non plus économique, mais la critique culturelle. Pourquoi? Parce qu'on décrète que l'Occident qui a empêché l'avènement de la révolution, finalement, le peuple n'a pas voulu de la révolution. C'était bien la preuve de son espèce d'enfermement idéologique dans des schèmes traditionnels vieillis. Eh bien, on va chercher à pousser une nouvelle révolution, disons ça de manière très je le parle dans le langage de l'époque, là. On va vouloir faire naître une nouvelle culture révolutionnaire, et tout ça, ensuite, sur une trentaine d'années, ça va se délivrer du folklore révolutionnaire, disons ça comme ça, mais une nouvelle radicalité va s'imposer. Vous noterez d'ailleurs que partout en Occident, les champs de bataille politique sont moins économiques que culturels, identitaires, sociétaux, et ça va être un nouveau combat qui va s'inscrire sous le signe de la déconstruction, donc, des normes anthropologiques, identitaires et nationales traditionnelles, pour qu'elles deviennent une nouvelle figure de l'individu délivré de toute forme d'appartenance classique. Alors, donc, c'est une longue histoire, mais c'est le résumé.
Quand vous dites « on », c'est qui, en fait? Vous le sourcez un petit peu dans votre ouvrage, mais est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu la filiation intellectuelle?
Je le disais tantôt, c'est une bonne partie de l'intelligentsia progressiste. C'est-à-dire, on ne doit pas sous-estimer à quel point les idées ont des conséquences dans l'histoire. Aaron l'avait déjà noté, mais ce n'était pas le seul qui l'a noté.
Alors, je ne peux pas vous reprendre pour chaque intellectuel, mais vous citez souvent des figures intellectuelles.
Raymond Aron, grande figure intellectuelle du 20e siècle, critique du totalitarisme en France, en fait, figure de liberté de résistance intellectuelle en France dans la deuxième moitié du 20e siècle. Aaron notait que le socialisme est une passion intellectuelle bien avant d'être une passion populaire. Et donc, on peut dire que ce mouvement-là va avoir lieu surtout dans l'intelligentsia. D'ailleurs, sans surprise, il va être ensuite repris à partir des années 80 dans les universités, 80-90. C'est là que va s'élaborer une chose qu'on connaît aujourd'hui, hein, le politiquement correct, qui est l'ultime écho de cette nouvelle pensée, de cette nouvelle critique de la culture, de cette volonté de renverser la légitimité, de prioriser la marge sur la norme et le centre, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ça va venir des milieux intellectuels, ça va s'institutionnaliser dans l'université, ça va se diffuser dans les médias, ça va être normalisé aussi souvent dans les catégories de l'administration publique. Donc, c'est un changement de légitimité dont on a été témoin finalement. C'est une manière de concevoir le monde qui va se faire remplacer par une autre, mais tout ça va être assez autoritaire finalement parce que le commun des mortels, reprenons cette formule, le commun des mortels ne s'enthousiasme pas pour cette volonté de changer son monde, de déconstruire les significations héritées, déconstruire le monde commun, déconstruire la culture, déconstruire l'identité. Il n'y a pas trop d'enthousiasme à l'idée de se faire déconstruire. Et ça engendre de nouveaux conflits politiques.
Alors, vous avez des termes forts. Vous parlez d'une forme de décolonisation intérieure. Voilà, il faudrait travailler une forme de décolonisation intérieure. Voilà, vous citez entre autres Daniel Cohn-Bendit qui, à l'occasion d'un anniversaire de mai 68, donc on peut dire que c'est une des grandes figures de mai 68, évidemment, revenant sur les événements, aurait dit que c'était la fin de la Révolution, mais le début des mouvements de libération qui continuera bien au-delà. Bref, comme il faut avancer et que le temps passe, c'est que ça n'est jamais qu'une émission de résumé de votre propos. Vous dites qu'il y a derrière cela, pas seulement une révolution culturelle, mais un rêve politique. Vous dites que c'est une forme d'utopisme. Alors peut-être pouvez-vous expliquer encore davantage pourquoi, et surtout que c'est une forme dévoyée de la démocratie. Vous parlez d'une démocratie radicalisée. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites le saut?
Oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, on prétend, évidemment, quand on mène tout ça, c'est les mots de Cohn-Bendit, on croit porter une libération. Et ça, je pense que c'est une bonne chose à rappeler en sciences sociales et en sciences politiques. Quand on étudie les motivations des acteurs sociaux, peu importe ce qu'on en pense soi-même, il faut toujours supposer que de leur point de vue, ils ont raison. Vous me direz, ça va de soi, mais les militants font souvent oublier cette étape, donc ils sont persuadés que l'autre camp est non seulement à tort, mais veut le mal du commun des mortels. Non. Donc, il y a cette idée qu'on va libérer. On va libérer donc d'une culture traditionnelle trop étouffante. On va libérer d'une culture nationale asphyxiante. On va libérer d'une civilisation occidentale aliénante et aliénée. Donc, on va permettre à toute une série de minorités refoulées, étouffées par l'histoire, étouffées dans les marges, condamnées à une existence diminuée, on va leur permettre d'émerger véritablement au cœur de la société. Le problème, c'est que que cet égalitarisme identitaire puisse se traduire politiquement, eh bien, qui est souvent fantasmé, je me permets de le dire, c'est-à-dire que vous savez, quelquefois, il y a des lobbies qui se réclament de groupes, mais les groupes en tant que tels n'accordent pas vraiment cette confiance aux lobbies qui prétendent parler en leur nom. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate, c'est que la plupart des nations occidentales n'avaient pas particulièrement envie de se faire déconstruire. Donc, quand je dis qu'on se retrouve dans une forme c'est un paradoxe politique, c'est qu'au nom de la démocratie, de l'émancipation, de la libération, eh bien, on va en venir à faire taire, en fait, la majorité, ça a tout le sens du politiquement correct. On va vouloir étouffer l'expression du malaise de la majorité devant la déconstruction des repères de civilisation qui étaient les nôtres. Et tout le vocabulaire qui aujourd'hui est très à la mode, vous savez, les mots en phobie, xénophobie, transphobie, islamophobie, tout ça, mais c'est souvent une manière de psychiatriser la dissidence, de transformer en dérèglement psychique le fait de ne pas vouloir simplement le monde auquel on est attaché se décomposer.
Et donc, ça devient une utopie politique. Est-ce que...
Ah ben ça, je crois que ça a toujours été politique. Ça, il faut bien voir, les utopies, ou à tout le moins les idéologies, ont pour vocation, tôt ou tard, à s'institutionnaliser, à se transformer en projet politique. Et ça, c'était fait pour... On peut pas écrire l'histoire à l'avance, évidemment, mais c'était fait pour aller dans cette direction, et ça a été institutionnalisé par l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, le projet diversitaire est pris en charge par l'État, faut pas se tromper. C'est pas un pur projet dont on débat dans les facs de philo ou de littérature comparée. C'est un projet politique, pris en charge par le politique, pris en charge par l'administration. De ce point de vue, oui, il y a une dimension politique, et aujourd'hui, on le vit. Regardez le traitement réservé aux défenseurs de ce qu'on pourrait appeler la souveraineté nationale, de l'identité nationale. Mais on les extrême-droitise, quelquefois on les disqualifie moralement, on les psychiatrise, on les pathologise. Bon, dans certains cas, c'est vrai qu'il peut y avoir des extrêmes, mais la plupart du temps, un point de vue, appelons ça, attaché modérément à la figure de la nation telle qu'on l'entendait traditionnellement aujourd'hui, peut se faire criminaliser, diaboliser. Donc, on est dans un conflit fondamentalement politique.
Voilà, je citerai un extrait de votre ouvrage avant qu'on fasse une première pause. Les droits de l'homme revisités par la deuxième gauche et la sensibilité contestataire seraient ceux d'un individu anti-autoritaire, anti-institutionnel, égotiste, hédoniste. La figure de l'individu se substituerait à celle du citoyen, et vous ajoutez, alors que Tocqueville, donc pareil, autre grande figure intellectuelle, pardon, on en cite beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un peu, voilà, c'est l'exercice obligé de cette émission, alors que Tocqueville s'inquiétait d'une démocratie qui acclimaterait les sociétés humaines à une nouvelle tyrannie. Voilà, mm-hmm. Peut-être vous pouvez ajouter un commentaire sur cette inquiétude que Tocqueville, redire en deux mots qui était Tocqueville et quelle était son inquiétude dès le début des démocraties américaines
Alexis occidentales. Tocqueville, grand homme politique, grand observateur des naissances de la naissance ou de l'esprit de la démocratie dans le laboratoire américain, disons ça comme ça, figure qui va compter en France, de tradition, on pourrait dire, intellectuellement orléaniste, en libéral, conservateur, on le dirait dans des mots comme ça aujourd'hui. Il s'inquiétait, quant à lui, que la démocratie un jour se dévoierait et ferait perdre le sens des libertés. C'est-à-dire, toujours au nom de la démocratie et de l'émancipation, on en viendrait à perdre le sens des libertés, des conditions concrètes des libertés. Il craignait une société qui aseptiserait les consciences, qui pousserait une forme d'endormissement généralisé. Et il y a de bonnes raisons de penser que nous y sommes peut-être.
On fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Multiculturalisme comme religion politique » paru aux éditions du CERF.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc avec Mathieu Boccoté. Si par hasard vous nous prenez en cours de route, comme à chaque fois, je vous rappelle le titre de l'ouvrage et de l'émission. Donc c'est sur le multiculturalisme et le titre de l'ouvrage, c'est le multiculturalisme comme religion politique. Alors ne partez pas en courant, car Mathieu Boccoté est exigeant intellectuellement, mais clair. Et donc c'est, pour rappel, c'est donc une figure intellectuelle québécoise qui vient régulièrement, enfin de plus en plus régulièrement en France. Déjà, il publie, je le disais souvent, dans le Figaro ou dans le Figaro Vox, qui est un peu la version, on va dire, longue et intello du Figaro, un certain nombre de tribunes, et là il est en France pour une tournée de conférences et entre autres de passage à Toulouse. Donc, on a compris votre propos sur le multiculturalisme comme un nouveau paradigme de la gauche actuelle et comme un rêve politique, pour résumer. Ce que je voudrais dans cette deuxième partie, c'est qu'on essaie de voir les réalités que ça prend. Vous détaillez ça dans votre ouvrage. Commençons par l'école, puisque c'est un sujet qui est cher aux Français. Est-ce que vous pouvez nous dire, vu du Québec, ce que vous envoyez dans l'école en France, comme traduction de ce multiculturalisme ?
On l'a vu surtout dans l'enseignement de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, on a eu une volonté pendant longtemps. Notez qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en France, je me permets de le dire tout de suite, c'est l'événement Jean-Michel Blanquer. C'est quelquefois l'histoire dévie dans de belles directions, hein, tout le moins quelque chose se passe. Mais ce que je cherchais à retracer là-dedans...
Ça vous a surpris de la part d'Emmanuel Macron, pas ou...
Oui, ça m'a surpris, mais très positivement. Franchement, on regarde ça, on sait... Les gens qui ont une sensibilité conservatrice, disons, par rapport à l'école depuis 30 ans, d'une manière ou de l'autre, on se disait, est-ce que ça va être possible un jour de contenir la catastrophe? Et non seulement on contient la catastrophe avec lui, mais on entreprend la reconstruction. Alors moi, j'applaudis, sans être un macroniste enragé ou même modéré, je constate qu'il a pris une bonne décision sur l'éducation. Cela dit, les effets du multiculturalisme à l'école, on l'a vu par exemple dans l'enseignement d'une histoire pénitentielle. Une histoire pénitentielle qui, fondamentalement, résume l'histoire de la collectivité, de la nation, de notre civilisation.
Alors expliquez ce que vous voulez dire par une histoire pénitentielle.
Une histoire qui, fondamentalement, s'inscrit sous le signe de la culpabilité collective, soit des Français, soit des Britanniques, soit des Québécois, soit des Canadiens, des Américains. Une histoire pénitentielle, une histoire qui ne retient de l'histoire que les épisodes triste ou tragique même, criminel quelquefois, et on apprend finalement l'histoire dans cette perspective pour s'accuser soi-même de tous les maux. Alors le problème, c'est comment voulez-vous ensuite hériter de cette histoire, la transmettre, la poursuivre, si vous êtes convaincu que fondamentalement c'est une histoire coupable, une histoire dont vous devriez avoir honte, et ça, une forme de renversement de la transmission culturelle.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, peut-être?
Oui, c'est pour ça que je donne la question de l'enseignement de l'histoire des
événements. Oui, mais à l'intérieur de cet exemple.
Ah oui, bien sûr. Regardez, mais ça, c'est même un usage public de l'histoire. Refus de commémorer Austerlitz, qui est quand même un grand moment de l'épopée napoléonienne, mais participation à la célébration de la défaite de Trafalgar. Alors, on célèbre la victoire des autres et sa propre défaite, mais parce que Napoléon n'était pas un personnage absolument transparent, lisse, il y avait la question de l'esclavage et tout ça, eh bien, soudainement, c'était une histoire qu'on ne voulait plus commémorer. Dans les manuels d'histoire, il y a quelquefois des rapprochements assez fascinants quand même, donc on va présenter les croisades comme... Un épisode, bon, on peut être alors la sympathie au nombre des croisades, la question n'est pas là, mais on va les présenter comme une pure forme d'agression qui serait le premier signe déjà d'une civilisation occidentale agressive, expansionniste, dominatrice, étouffante, écrasante même, encore une fois. On va avoir une réduction, bon, quand on va penser par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, si on l'a vu, il y a l'épisode de la collaboration qui est un épisode terrible, mais il y a aussi le gaullisme, il y a l'épisode de la résistance. Or, ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette part-là, la part de la résistance, soit la part du gaullisme, soit plus largement la part d'une forme de résistance à l'occupation, a été ramenée une part de plus en plus petite, comme si fondamentalement la France se distinguait par l'esprit de collaboration. Mais ça, encore une fois, plus largement, on peut voir le rapprochement dans les manuels scolaires quelquefois de 1492, la découverte de l'Amérique. On va dire que ça inaugure une série d'événements qui vont culminer ensuite dans la Shoah. Donc fondamentalement, vous voyez cette espèce de mémoire trafiquée sous le signe de la culpabilité. Et moi, je ne suis pas de ceux, mais même pas du tout, qui souhaitent un roman national aseptisé ou seulement glorieux. Je pense que les choses humaines ne sont pas des choses strictement glorieuses. Mais tout ce que je veux, c'est qu'on ne se contente pas des pages noires. Qu'on soit capable, je dirais, à la fois d'avoir des pages lumineuses, des pages sombres, et aussi ces pages grises qui sont la réalité des hommes, où le bien se mêle au mal, où la grandeur se mêle à la petitesse. Et s'approprier une histoire nationale, ce n'est pas seulement faire une galerie de héros, mais ça ne devrait pas consister non plus à faire tomber tous les héros et déboulonner toutes les statues.
Voilà, vous citez à ce propos Pascal Bruckner, donc autre figure intellectuelle française, qui est une figure plutôt traditionnellement classée à gauche, hein, qui parle donc de culture de l'excuse. Vous le citez, on l'a pu l'entendre à d'autres reprises sur ce sujet. Vous laissez entendre dans votre ouvrage que, en fait, c'est pareil, de manière, comment dire, tout cela aurait été pensé et de manière intentionnelle aurait été visé dans cette, comment dire, cette culture multiculturaliste, enfin directement, d'abord justement l'école et la culture. Est-ce que vous pouvez refaire un peu la filiation et pour ceux qui ne suivent pas d'aussi près la vie intellectuelle française que vous, nous aider à rentrer là-dedans?
Alors, je ne prétends pas, on s'entend, quand je dis une dimension intentionnelle, je pense pas qu'il y ait un complot, là. Je ne suis pas du tout dans la sociologie complotiste qui est grossière en plus d'être fausse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi il y a un déplacement sur la question de la culture. Fondamentalement, on en est venu à croire que les minorités et l'individu, plus largement, mais les minorités, étaient étouffées par une culture que l'on dira ethnocentrique, occidentalocentrique. Bon, vous pouvez faire la liste, on va en rajouter. Et dès lors, le combat politique doit se déplacer sur le terrain de la culture pour déconstruire. Donc, la culture n'apparaît plus comme culture. Elle apparaît comme bagage de préjugés, bagage de stéréotypes.
Bagage des dominants aussi.
Pardon?
Bagage des dominants.
Oui, évidemment. La culture, c'est rien d'autre que l'idéologie normalisée des dominants. Donc, c'est ainsi qu'on va le voir. Bourdieu va être très fort là-dessus, par exemple, à l'école.
Autre intellectuel français, oui.
Or, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que le combat, dès lors, politique se déplace. Il s'agit désormais de déconstruire tout ce à quoi le commun était attaché, parce qu'on réduit ça désormais, on croyait voir le commun, on croyait voir la nation, on croyait voir le peuple, mais finalement ce n'est plus que la tyrannie de la majorité qu'on veut voir. Et cette tyrannie de la majorité, comme toutes les tyrannies, doit être abattue. Dès lors, il y a une forme de travail, mais infini en fait, parce qu'on n'en arrivera jamais au bout, un travail infini de déconstruction de tous les référents culturels traditionnels. Et quand je dis qu'on n'en arrivera jamais au bout, ça, on le voit notamment avec la fameuse théorie du genre, dont on a quand même beaucoup parlé ces dernières années. La théorie du genre, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à contester l'idée qu'il y ait, dans la nature même de l'être humain, un pôle masculin, un pôle féminin, qu'à travers les âges et les civilisations, on n'ait pas défini le masculin et le féminin de la même manière, ça va de soi. Mais on a toujours eu un pôle féminin, un pôle masculin. Et qu'est-ce que c'est, finalement, le sexe? Le sexe, c'est la morsure de la nature sur la culture. C'est cette part de l'être humain qui ne peut pas être choisie. Cette part de l'être humain qui est qui relève du donné, en fait. Or, la théorie du genre est l'expression ultime du progressisme néo-68ard, parce que ça nous dit, vous devez déconstruire tous les préjugés, vous devez déconstruire toutes les normes héritées, finalement, même l'identité sexuelle est un préjugé culturel, et vous devez déconstruire le référent masculin ou féminin pour que puisse advenir un individu absolument libre, parce qu'absolument auto-engendré, parce que n'étant plus défini par sa civilisation, mais n'étant même plus défini par son sexe et par sa nature. L'individu n'existe plus que comme pur volonté. Ben, ça, c'est le point d'aboutissement de cette espèce de nouveau combat culturel où il faut déconstruire tout ce qui relève de la limite, tout ce qui relève de la finitude, tout ce qui relève de l'histoire, tout ce qui relève de l'anthropologie. Tout ce qui doit rester, c'est un individu absolument auto-engendré, ne devant rien à personne, ne devant rien à la filiation. Ça, c'est quand même le point d'aboutissement de ce progressisme néo-68ard.
Voilà, ça fait écho à, comment dire, à la conférence, enfin l'émission d'hier, qui était donc une conférence enregistrée vendredi de la semaine dernière, où Jean-Luc Marion tenait entre autres ses propos. Il parlait donc de cette volonté de puissance, pour rappel, hein, qui chez les chrétiens est contrebalancée par le fait qu'on essaie de rentrer dans la volonté d'un autre, qui est celle de Dieu ou qui est celle du Christ. Vous ajoutez dans votre ouvrage, toujours pour aller peut-être un peu vite, pour vous, que cette contre-culture, hein, quelque part, se développe avec le soutien de la mondialisation, ou dans tout cas d'une certaine vision de la mondialisation. Alors vous citez, entre autres, Jacques Attali, et vous dites la chose suivante. Jacques Attali, donc autre grande figure française, je ne sais pas si vous le considérez comme une figure intellectuelle, en tout cas elle est vue comme telle, Jacques Attali a déjà réservé une sublime vocation à la Fédération canadienne, alors il parle du Canada, elle représenterait le laboratoire l'espoir de l'utopie dans un monde apprenant à faire vivre ensemble des différences, un monde se laissant pleinement investir par l'idéal de la diversité, et tout ça dans un contexte économique. Alors, est-ce que vous pouvez faire en quoi la mondialisation favorise cette contre-culture que vous décrivez? Et deuxième question à l'intérieur de la question, c'est ma spécialité. Est-ce que c'est pareil, c'est intentionnel ou c'est fortuit?
Alors, la mondialisation, fondamentalement, fonctionne avec l'idée d'individus qui peuvent être déliés de leurs appartenances, déliés de leurs racines, déliés de leur communauté, pour être disponibles selon les besoins du capital à travers la planète. Ça s'accompagne, par ailleurs, d'un authentique rêve cosmopolitique qui ne date pas d'hier, qui est un rêve qui façonne probablement la psyché humaine depuis toujours et qui la façonnera pour toujours. Mais le cosmopolitisme était normalement vu comme une ouverture à l'universel, une ouverture à la diversité des cultures. Aujourd'hui, on veut en faire un principe politique, donc délier l'homme des communautés politiques.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée?
Concrètement, c'est une forme de l'apologie du déracinement aujourd'hui, c'est-à-dire l'individu doit se détacher de ses appartenances parce que ses appartenances le contraindraient, l'empêcheraient d'être pleinement libre. Résultat, on croyait traditionnellement que l'homme avait besoin de médiation. Il avait besoin de médiation pour s'inscrire dans le monde. Il avait besoin d'une langue, d'une culture, d'une mémoire, d'une cité, d'une religion. Et on s'est dit, ben, tout ça, ça fait un individu beaucoup trop prisonnier de détermination qui ne relève pas de sa volonté. Et on s'est dit, on va tout déconstruire ça. Et pour que l'individu soit pleinement disponible pour la mondialisation, donc ça, on a voulu arracher l'individu à son histoire, à sa culture, à sa langue, à sa religion, à son pays, tout ça. Mais le résultat, c'est que ça fait pas un individu absolument libre, mais ça fait un individu absolument nu et condamné à grelotter dans un monde trop froid pour lui. Et de ce point de vue, la mondialisation qui veut nous convaincre du mythe de l'interchangeabilité des peuples, les peuples n'existent pas, ce ne sont que des populations avec non pas des culture, mais des traditions superficielles qu'on peut bien transporter ici ou là, ou qui n'ont pas aucune portée politique, ça c'est ce qu'on se dit, ça fait un monde qui est de moins en moins capable de penser la nation et l'appartenance autrement que sous le signe du repli et de la crispation identitaire. Vous noterez, quand on parle d'identité aujourd'hui, on dit toujours dérive identitaire, crispation identitaire, comme si le fait de vouloir habiter un monde commun et que faire en sorte qu'il soit durable, eh bien c'était une forme de fermeture, une fermeture au monde, fermeture à la condition humaine. À votre deuxième question, est-ce que c'est intentionnel ou fortuit? Ben, les deux. C'est-à-dire que la mondialisation...
Parce que vous utilisez à nouveau le terme « on ». Alors, on se demande en fait si...
Oh, mais je précise, c'est-à-dire le « on » auquel vous faites référence est précisé au fil de l'ouvrage. C'est généralement ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire progressiste, l'intelligentsia progressiste. Mais une fois que c'est dit, c'est que l'histoire ne se réduit jamais. L'histoire n'est pas monocausale. L'histoire n'est pas monocausale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'économie ou la finance ou la culture ou tous ces phénomènes-là s'interpénètrent. Ce qui m'intéressait dans le livre, cela dit... Parce que vous savez, mais ça c'est des querelles de sociologues, souvent en sociologie on a tendance à faire de la mondialisation, de l'âge de la diversité, simplement la nouvelle étape de la modernité. On nous dit « Ah ben c'est inévitable, c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'a aucune emprise sur ça, c'est la modernité qui se déploie ». Et là où il y avait une opposition frontale dans le livre, c'est que j'ai un instant, je conteste pas l'idée qu'il y a des phénomènes historiques massifs qui se passent, économiques, tout ça, technologiques, mais il y a une dimension politique qu'il faut restituer. Il y a des acteurs qui ont des idées et qui ont des projets et qui cherchent à configurer le monde. Et ce que j'ai cherché à faire dans le monde, dans ce livre, c'est de retracer la part de l'idéologie. L'idéologie n'a pas tout. L'idéologie n'est pas impériale et souveraine. Mais l'idéologie, donc le fait que des gens veuillent changer le monde en fonction d'un certain objectif, d'une certaine vision des choses, ça compte aussi. Et ce que je cherchais à voir là-dedans, c'est comment, quand on lit, par exemple, les principaux philosophes de la mondialisation, ceux qui nous théorisent la mondialisation à la manière d'une nouvelle opportunité fondamentale pour le genre humain, eux nous disent que nos appartenances sont désuètes, archaïques, condamnées et qu'on doit s'en délivrer. Eux nous disent clairement qu'on doit s'arracher, enfin, l'ancienne conception de l'être humain. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail philosophico-politique là-dedans. Ensuite, si vous me dites que les mutations technologiques de notre temps ont des effets immenses sur notre représentation de l'identité, ça va de soi, c'est pas la question. Mais la question que je cherche à voir, c'est que la dimension politique est peut-être plus importante qu'on l'a cru pendant un temps, que tout ça n'est pas un simple mouvement naturel de l'histoire, qu'il y a des acteurs, qu'il y a des idées, puis ce que je cherche à faire, c'est retracer le rôle des idées dans la construction de ce monde nouveau.
Alors je citerai juste un passage de votre livre. « Les nations ne comptent plus vraiment et c'est l'humanité qu'il faudrait désormais constituer politiquement. Les élites mondialisées tolèrent de moins en moins l'État-nation. » Et un peu plus loin, « La gauche post-marxiste héritera de cet universalisme radicalisé et critiquera aussi la souveraineté nationale, tout comme elle critiquera le caractère illusoire du politique s'il ne se rapporte pas à l'échelle mondiale. » Pour illustrer, j'aimerais bien que vous nous parliez, juste avant qu'on fasse une deuxième pause, un peu plus du Canada. En quoi le Canada... sous certains aspects, peut-être l'illustration de votre propos et le demain de la France, quelque part.
Le demain de la France, ça reste à voir, mais le Canada est un pays qui, historiquement, était fondé, bien qu'il avait une fondation trouble, sur deux peuples fondateurs, c'est-à-dire les Canadiens anglais et les Québécois. On disait à l'époque les Canadiens français. Et pour différentes raisons, le Canada n'a pas voulu assumer cette réalité historique, en bonne partie parce qu'il redoutait le fait québécois. Donc à partir des années 70, dans la logique du Canada, on s'est dit, ben, il n'y a plus de peuple fondateur au Canada. Il va y avoir simplement des communautés. Il y a deux langues officielles, mais les langues ne sont pas rattachées à des communautés. Donc le peuple québécois est devenu une communauté parmi d'autres, communauté ethnique parmi d'autres. Les Canadiens anglais traditionnels, on les a présentés aussi comme tels. Donc le Canada a dit, nous n'avons plus de fondement historique, nous sommes tous des immigrants. Vous connaissez cette thèse, elle est à la mode aujourd'hui. Nous sommes tous des immigrants, mais le Canada a vraiment porté ça, alors que c'était contraire, disons, à la réalité du pays. Et Justin Trudeau, qui est aujourd'hui celui qui incarne l'idéologie canadienne dans sa forme caricaturale, peut-être, quelques mois après son élection en 2015, a été donné une entrevue au New York Times.
Donc, rappel, c'est le premier ministre canadien.
Oui, bien sûr, premier ministre du Canada, à Ottawa. Et Justin Trudeau a été dit au New York Times que le Canada est le premier pays post-national et post-moderne parce que c'est un pays sans identité constitutive, sans noyau identitaire, sans culture commune. Le Canada, ce n'est rien d'autre qu'une multiplicité d'appartenance sous le signe de la diversité, avec les droits de l'homme comme liant social, comme liant juridique. Donc le Canada est un pays qui s'enorgueillit de ne pas avoir d'identité commune. De ce point de vue, c'est le laboratoire absolu de cette espèce d'idéologie diversitaire parce que, ailleurs dans le monde, les États ont tendance à assumer, au moins qu'ils ont une forme, ils sont l'expression politique d'une réalité historique qui s'appelle la nation. Au Canada, on a folklorisé, en fait, les nations fondatrices, on les a transformées en... Et quand les Québécois, par exemple, refusent ce mauvais sort qu'on leur réserve, quand les Québécois disent, ben, un instant, on est un peuple, on est une nation, on considère que chez nous, on est en droit d'établir nos propres règles d'identité, de culture, de laïcité, de nos propres règles linguistiques, bien le Canada anglais voit là-dedans une forme de suprémacisme ethnique, parce que la forme classique de la nation n'est plus admise au Canada qu'à la manière d'une forme de suprémacisme. Donc quand... Par exemple, en France, il y a différentes volontés autour des questions de la laïcité de contenir l'expression des signes religieux ostentatoires dans l'espace public. On peut en penser du bien ou du mal si on est français, mais du point de vue du Canada, c'est tout simplement illégitime. C'est illégitime parce que ça cherche à contenir l'expression de la diversité. Et plus encore, du point de vue canadien, et ça on l'entend souvent même dans la presse anglo-saxonne, la France est présentée comme l'Union soviétique des minorités. C'est comme le contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'il s'agirait d'une nation autoritaire, étouffant les différentes subjectivités qui veulent s'y exprimer, issues de l'immigration, pour le dire comme ça. Donc, je trouve que c'est une vision terriblement injuste de la France, c'est une vision fausse de la France, mais qui révèle le préjugé multiculturaliste, c'est-à-dire toute forme de nation historiquement ancrée dans un cadre politique et irrecevable dans la logique du multiculturalisme. Nous avons tous vocation à devenir Canadiens. Disons ça comme ça. Je ne suis pas certain que ce soit une vocation que nous ayons. C'est un désir que nous ayons tous.
Voilà, je vous citerai une dernière fois avant qu'on fasse cette deuxième pause. C'est un autre passage de votre ouvrage. Vous parlez donc Alain Gérard Slama, autre figure intellectuelle française. Peut-être c'est difficile de préciser qui sont-ils tous. C'est demander à quoi rêvent les sociologues. On pourrait lui répondre à une pleine maîtrise sur les rapports sociaux, à une reconstruction égalitaire des mécanismes de socialisation, une prétention démiurgique. Vous pouvez peut-être juste éclairer cette citation.
Oui, bien sûr.
Pour préciser qui est Alain Gérard Slama.
Alain Gérard Slama, un intellectuel lié à la droite libérale en France, politologue, historien des idées. Et cela dit, donc, il rêvait dans un texte du Figaro Magazine des années 90, une question qu'il posait au début 2000, à quoi rêvent les sociologues? Et moi, ce que je reprenais la question, disons, quel est le préjugé épistémologique ou appelons ça constitutif de la sociologie, c'est que tous les rapports sociaux, la société peut être absolument transparente. On peut en venir à comprendre parfaitement les mécanismes sociaux. Il n'y a aucune part de mystère, aucune part d'opacité, il n'y a aucune part de sacré, il n'y a aucune part de transcendance. La société n'est qu'un mécanisme qu'il nous est possible de déconstruire et reconstruire à loisir selon les plans de réingénierie idéologique qu'on peut mettre de l'avant. Devant ça, moi je suis très 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 sceptique. Parce que pour moi, la société, oui, on peut changer les choses. Évidemment qu'on peut changer des choses. Mais la société n'est pas qu'une mécanique complexe à démonter, remonter selon nos désirs. Je crois au poids de l'histoire. Je crois au poids des passions humaines. Je crois au poids des aspirations à la transcendance. Une société qu'on croit qu'on peut simplement construire, déconstruire dans une perspective technicienne, parce que c'est le point d'aboutissement de cette sociologie où tout peut être construit, déconstruit selon les obsessions idéologiques du jour. Je trouve que c'est toxique, ça tue la liberté humaine, ça ne comprend pas l'être humain, ça fait de l'être humain finalement un pur écho de la société, des mécanismes sociaux. Je pense qu'il nous faut redécouvrir une vision de la liberté où l'homme est ancré dans la culture, dans l'histoire, avec des passions, avec un enracinement, avec une ouverture à la transcendance. Et cette vision de l'homme est incompatible avec ce que les pratiques dominantes de la sociologie aujourd'hui.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Multiculturalisme comme religion politique » paru aux éditions du CERF. On fait une deuxième pause et on vous retrouve tout de suite après.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc avec Mathieu Boccoté ce matin, pour rappel, autour d'un ouvrage, Le multiculturalisme comme religion politique, paru aux éditions du CERF. Dans cette dernière partie d'émission, je voulais que vous nous parliez donc du ce que vous appelez le réveil conservateur. Je ne sais pas si c'est exactement l'expression que vous utilisez, mais en tout cas, c'est ce que vous laissez entendre dans votre ouvrage. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être juste une chose, je citerai une citation que vous donnez d'Alain Finkielkraut, autre figure intellectuelle française, qui parle de la fin de l'histoire. Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer et mettre en perspective cette citation et ce qu'elle dit, peut-être d'une fracture politique, intellectuelle, voilà, d'un retour des conservateurs en France?
Alors, à la chute du communisme, et plus largement donc de l'effondrement de l'Union soviétique, Francis Fukuyama, un philosophe américain, disait « c'est la fin de l'histoire au sens suivant, les grandes controverses philosophiques et politiques portant sur la nature du meilleur régime sont terminées ». C'est une enquête qui remonte à Aristote, mais là on a trouvé dans la synthèse des mots libérales avec l'économie de marché. Donc, il va y avoir encore des conflits, parce que les êtres humains sont ce qu'ils sont, mais il n'y aura plus de grands conflits sur la nature même de l'homme, la nature. Et le tragique va être refoulé dans les marges de la société. Il va toujours y avoir de la criminalité, tout ça, mais on va aller dans un monde de plus en plus rationnel, un monde de plus en plus pacifié. C'était une thèse qui a suscité beaucoup de moqueries, mais qui était pourtant intéressante, parce que ça cherchait à proposer une philosophie longue de l'histoire humaine. depuis le 11 septembre, et surtout, on pourrait dire, c'est l'éruption de l'islamisme en Europe, la question du terrorisme, les tensions liées aux questions migratoires, les débats autour de la nature même de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, Fukuyama était exagérément optimiste. Et c'est pour ça que Finkielkraut nous dit la fin de la fin de l'histoire, c'est-à-dire nous nous délivrons de l'illusion d'un monde réconcilié, d'un monde pacifié, d'un monde où finalement il n'y aurait que des nuances à l'intérieur de la même idéologie. Nous redécouvrons le politique dans sa part conflictuelle. Nous redécouvrons les passions, nous redécouvrons le fait que le politique peut être violence, nous redécouvrons le fait qu'il y a des philosophies qui s'opposent, et je pense notamment que le multiculturalisme s'oppose notamment à la conception classique qu'on avait de la nation et de la démocratie. Donc même le conflit interne aux sociétés occidentales n'est pas terminé. Il rejaillit aujourd'hui autour de la nature, l'interprétation qu'on fait de ce qu'est la démocratie, la liberté et l'identité.
Alors dites-nous un mot de ce que vous pensez justement de cette droite décomplexée, comme on l'appelle en France. Vous la dites, vous la nommez comme telle aussi. Vous commencez d'ailleurs votre ouvrage là-dessus en parlant de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy qui avait été, on va dire, sur ce ton, même si certains lui reprochaient après de ne pas être, pas avoir été à la hauteur. Je dis bien certains, parce que je ne souhaite pas prendre parti. De cette droite décomplexée, comment la voyez-vous depuis le Canada? Et vous parlez à ce propos, je ne sais pas si on la voit comme telle depuis le Canada, mais qu'une droite décomplexée est forcément une forme de pré-fascisme, à vous entendre.
C'est pas ce que je dis. Je dis comment les progressistes...
Comment les caricaturer, pardon.
Oui, c'est-à-dire du point de vue du progressiste. En fait, c'est une formule intéressante de la notion de droite décomplexée. Quand on dit droite décomplexée, ça présuppose que la seule droite légitime, parce qu'on présente toujours ça de manière menaçante et inquiétante, ça présuppose que la seule droite légitime est une droite complexée. Complexé par quoi? Parce qu'acceptant de s'inféoder aux critères dominants du progressisme. Donc, la droite légitime dans nos sociétés, c'est la droite qui accepte fondamentalement d'être toujours en train de justifier sa propre existence et de se purger de ses démons d'une manière ou de l'autre. Et mais dans l'esprit de la gauche, dans l'esprit du progressisme, finalement, qu'est-ce que c'est? La droite complexée. La droite complexée, c'est une droite sous son autorité idéologique. La droite décomplexée, c'est une droite qui se laisserait aller à ses pires démons et qui, conséquemment, serait tentée, tôt ou tard, par l'extrémisme. Donc, je critique fondamentalement ces notions-là. Moi, je pense que c'est une manière malheureuse de se représenter le débat politique. Je pense pas que la gauche devrait avoir le monopole des critères de définition de la respectabilité politique. Vous savez, les journalistes de gauche sont souvent de gauche avant d'être deux journalistes. Et ce qui m'amuse et m'agace tout à la fois, c'est quand ils se donnent le droit de distinguer entre ce qu'est une droite humaniste et une droite dure, entre un conservatisme éclairé et un ultra-conservatisme, entre une droite modérée et une droite radicalisée. Lorsqu'ils se permettent de distinguer entre les thèmes légitimes puis les thèmes sulfureux, quand ils nous disent d'ailleurs que certains sujets sont sulfureux et nauséabonds, ces gens-là ne pensent pas, ils reniflent, ils fonctionnent avec leur nez, c'est l'argument olfactif. Alors, tout cette espèce de système de disqualification morale du conservatisme dans la vie publique est exaspérant possible parce que ça consiste à nous dire qu'il n'y a pas de conservatisme légitime dans nos sociétés, ou alors il ne sera légitime que s'il se plie aux critères idéologiques qui nous viennent d'une certaine gauche intellectuelle.
Bon. En tout cas, en France, avec l'avènement d'Emmanuel Macron et de cette majorité écrasante, c'est parfois présenté comme tel. C'est-à-dire que les conservateurs, je sais pas comment il faut les qualifier, conservateurs sociaux, seraient peut-être encore un reliquat de...
C'est dans la logique du progressisme, vous voyez, il n'y a pas d'opposition légitime. Il y a ceux qui sont en avant, qui marchent, en marche, et ceux qui sont en arrière, qui sont retardataires, retardés, et qui ont besoin d'une demeure, des demeurés. Alors, dans cette représentation du débat politique, on a d'un côté le progrès, de l'autre côté le bois mort de l'humanité. Moi, je m'oppose à ça, je suis beaucoup plus classique dans ma conception du politique. Je pense que les besoins fondamentaux de l'âme humaine, je pense que les polarités existentielles dans chaque cité. Je pense que c'est normal qu'il y ait un pôle cosmopolite dans une cité, mais c'est normal qu'il y ait un pôle national aussi. C'est normal qu'il y ait un pôle de l'enracinement. C'est normal qu'il y ait un pôle de la liberté, c'est normal qu'il y ait un pôle de l'égalité. C'est normal qu'il y ait un pôle de la dissidence, c'est normal qu'il y ait un pôle de l'autorité. Donc, vous voyez, je pense que la tâche politique, pour moi, ça consiste à réconcilier les contraires dans une synthèse qui n'est jamais achevée, une synthèse qui est toujours provisoire. La définition du bien commun n'est jamais définitive. Et le problème du progressisme de aujourd'hui, c'est qu'il n'accepte pas la légitimité du camp d'en face. Il croit avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Et bien moi, je m'inquiète beaucoup de ceux qui croient avoir le monopole du vrai, du juste et du bien.
Pour finir, pardon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je suis désolé, il faudra revenir, pardon. J'aimerais bien juste que vous réagissiez sur la dernière phrase de votre ouvrage. parce qu'elle est, quand même, enfin, si vous pesez vos mots, elle est quand même extrêmement forte et donc elle peut être considérée comme inquiétante ou invitante. L'antitotalitarisme est une tradition de pensée avec laquelle il faut renouer. Ouais, pour vous, c'est une forme de totalitarisme. À quelle résistance intellectuelle vous appelez ?
Je pense qu'il y a... Alors, on s'entend, le monde occidental d'aujourd'hui n'est pas le goulag. Mais il y a une tentation totalitaire qui traverse tous ceux qui croient à une maîtrise intégrale de l'existence. Quand vous croyez que fondamentalement, vous pouvez avoir une maîtrise complète des codes de la socialisation, que vous pouvez déconstruire toute une culture parce que vous la réduisez à des préjugés, à des discriminations, à des stéréotypes. Quand vous pensez que vous pouvez, par l'école, fabriquer un nouveau peuple qui est complètement arraché d'une manière ou de l'autre à la continuité historique. Quand vous croyez que les peuples, finalement, toute résistance des peuples est simplement l'écho du passé et qu'il est nécessaire de balayer ça du revers de la main. Quand vous aspirez, même dans l'espace public, à criminaliser, disqualifier, psychiatriser et quelquefois même attaquer légalement ceux qui vous contredisent d'une manière ou de l'autre, je dis pas qu'on est en régime totalitaire, ce serait complètement fou. Je dis qu'une tentation totalitaire, c'est un clin d'œil à Jean-François Revel, tentation totalitaire qui est de nouveau en train de surgir dans une certaine gauche qui ne peut pas s'imaginer qu'on soit en désaccord avec elle, pour qui le désaccord en fait est un scandale, pour qui le désaccord est un scandale intellectuel et moral, et qui se donne donc le droit de faire taire des conférences, d'insulter, de cracher. Moi, je m'inquiète beaucoup de cette radicalité qui vient lorsqu'on croit avoir le monopole pour soi de la science, de la vertu, du bien et même de la santé mentale quand on traite l'autre de phobe. Eh bien, moi, je crois que devant cela, il est nécessaire aujourd'hui de redécouvrir, premièrement, les vertus du véritable pluralisme intellectuel et politique, pluralisme intellectuel, pluralisme philosophique. Il faut aussi redécouvrir, par ailleurs, les besoins fondamentaux de l'âme humaine qui sont niés par notre époque. Besoins comme ceux de l'enracinement, l'appartenance, l'inscription dans un corps civique, le désir de transcendance. Il nous faudrait découvrir une vision plus riche de l'être humain, et c'est autour de cette vision plus riche de l'être humain que peut ressurgir une vision plus riche aussi de sa liberté.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu Bocoté d'être passé au micro de Vivante Église, d'avoir fait ce détour par Radio Présence. Le titre de votre ouvrage, une dernière fois je le redonne, Le multiculturalisme comme religion politique, paru aux éditions du CERF. Merci beaucoup.
Au grand plaisir.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.